Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré à la prise en charge des douleurs chroniques. Alors la douleur est souvent considérée comme le symptôme d'un mal plus profond, d'une pathologie à rechercher et à soigner pour résoudre le phénomène de la douleur. Elle est aussi ce qui alerte le patient et le pousse généralement à aller consulter un médecin afin de savoir ce qui ne va pas au-delà des douleurs qu'il éprouve. Mais lorsque celle-ci dure dans le temps, lorsqu'elle devient chronique, la préoccupation tend à se déplacer du traitement de la pathologie qui cause la douleur vers une prise en charge médicale de la douleur en tant que telle. Comment soigner les douleurs chroniques, des douleurs qui durent dans le temps, et ce souvent depuis des années? Comment soulager et apaiser la douleur lorsqu'elle se fait rebelle au traitement et qu'il devient impossible de l'éradiquer entièrement? Ainsi, la douleur fait partie intégrante de la vie de celles et ceux qui souffrent. Vivre avec des douleurs chroniques reconfigure complètement l'existence, le quotidien et l'image de soi des personnes concernées. C'est être astreint à une autre norme de vie, moins souple, plus contraignante, qui dure dans le temps et avec laquelle le patient doit apprendre à évoluer dans d'autres espaces que ceux de la convalescence. En France, il existe plusieurs centres d'évaluation et de traitement de la douleur spécialisés dans la prise en charge pluridisciplinaire des douleurs chroniques rebelles. Ce sont des services médicaux accueillant des personnes souffrant de douleurs chroniques, au sein desquels elles ont la possibilité de bénéficier d'une évaluation de leur situation, d'être écoutées et accompagnées dans la recherche et la prise en charge de solutions adaptées et spécialisées. Pour aborder ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Hélin, médecin algologue, Laura Bonneau, infirmière, Mathilde Barré, infirmière également, et Cyril Planquois, psychologue clinicienne. Vous faites tous les quatre partie de l'équipe médicale du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur au CHU de Purpan à Toulouse. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qu'un centre d'évaluation et de traitement de la douleur? Et sachant qu'on en retrouve un peu partout en France, pouvez-vous préciser quel est le but et le fonctionnement de ces structures?
Alors pour te répondre sur ce point précis, c'est vrai que je crois qu'il est important d'ouvrir à une notion qui est celle de structure douleur chronique. C'est ce qu'on appelle les SDC. Et dans ces SDC, on va distinguer deux niveaux de prise en charge. Premièrement, les consultations douleur chronique, qui sont des consultations pluridisciplinaires, qui sont effectivement éparpillées partout sur le territoire. Et un niveau d'expertise, on va dire, de troisième recours, qui est vraiment le niveau le plus élevé de recours, qui est incarné par les centres d'évaluation et de traitement de la douleur, comme tu viens de l'expliquer. Les CETD et les structures douleurs chroniques au sens large, on en recense 254 en France, qui sont labellisées par les différentes ARS, donc les agences régionales de santé, labellisées selon des critères précis, qui reposent notamment sur le côté travail en équipe, le caractère pluriprofessionnel et pluridisciplinaire aussi. Ce sont des équipes qui travaillent en coordination avec les différents acteurs, les acteurs du terrain, que vont être particulièrement les médecins traitants, les médecins généralistes, mais aussi tous les autres acteurs du soin, comme les kinés, les infirmières et tous les métiers qui vont graviter autour de la prise en charge de la douleur en général. Donc vraiment, la notion d'équipe, c'est ce qui va être probablement à mettre au premier plan, parce que c'est souvent ce qui va être nécessaire à sous-tendre une prise en charge de qualité et la plus globale possible.
Quels sont les profils des patients suivis dans les centres de traitement de la douleur? Comment y arrivent-ils? Et est-ce qu'ils sont longtemps suivis dans ces services?
Les patients qui consultent en structure douleur chronique sont très probablement les patients qui présentent le plus de complexité, au sens que leur prise en charge a été rendu difficile dans d'autres cadres de soins, de par des douleurs rebelles, effectivement, des douleurs qui échappent à des prises en charge dites conventionnelles, et pour lesquelles on a besoin d'avoir vraiment cette idée d'une approche d'équipe pour pouvoir accompagner globalement ces patients. On sait que la prévalence de la douleur chronique en France, elle doit s'établir entre peut-être 20 et 30% de la population, donc il faut imaginer quand même que beaucoup de patients vivent avec des douleurs chroniques. Heureusement, il n'y en a pas tant que ça, qui ont besoin de ce niveau d'expertise dans la prise en charge, et on sait qu'il y a à peu près 2% de ces patients qui arrivent jusqu'à des structures comme la nôtre.
En psychologie, nous, on ne retrouve pas forcément de profil particulier de ces patients douloureux chroniques. Ça concerne tout type de population, de personnes. Néanmoins, les personnes qu'on reçoit en douleur chronique, au service douleur chronique, souvent, ils sont déjà rendus, bon, d'une part, vulnérables par la douleur chronique en tant que telle, mais aussi par un long parcours médical qu'ils ont eu jusqu'à nous, en fait, jusqu'à ce que nous, on ait eu le temps de les recevoir. Donc, on va retrouver pas mal de vulnérabilité quand on les reçoit, déjà. Voilà.
Après, les pathologies des patients pris en charge au centre de la douleur sont quand même très diverses et variées. Et du coup, en fonction de la pathologie et puis ben, de l'errance médicale à laquelle il a pu faire face, et ben, du coup, les prises en charge vont être plus ou moins longues. Il y a des gens qu'on suit ben, sur des courtes durées parce que ben, les phénomènes de la vie vont faire qu'il va y avoir un déménagement ou autre. Donc, on va faire le lien avec les autres structures douleurs. Mais sinon, ben, c'est pas qu'on prend les patients en charge à vie, mais on les prend vraiment en charge sur un long cours.
Pour rebondir, le délai d'accès à nos structures est très long. Il n'y a probablement pas assez de structures douleurs chroniques en France. Il n'y a pas de valorisation non plus de la prise en charge de la douleur en soins primaires, donc dans le cadre d'un exercice libéral, ce qui fait que finalement, les patients vont attendre longtemps avant de pouvoir accéder à notre niveau d'expertise. Et en moyenne, on sait que les douleurs évoluent depuis environ 5 à 8 ans avant d'arriver sur des structures comme les nôtres.
Comment définit-on la douleur en médecine et à partir de quand parle-t-on de douleur chronique?
C'est une question qui est à la fois simple et difficile. La douleur en médecine, ça va se définir sur des critères qui sont une définition internationale qui a été faite par l'IASP, qui est une association sur l'étude de la douleur. Une définition qui a été mise à jour assez récemment, en 2020, et qui établit que la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable, associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire qui est réelle, c'est-à-dire objectivée, ou potentielle. Donc, ça ouvre en fait le champ de ce que c'est que la douleur à proprement parler, et ça sous-tend effectivement le caractère très subjectif de la plainte exprimée vis-à-vis d'un éventuel diagnostic qui aurait pu être porté, étant donné que la douleur en tant que telle, on va plutôt la qualifier d'expérience, c'est-à-dire de quelque chose qui est vécu, à proprement parler. La douleur, c'est effectivement complètement personnel, et elle va être influencée à des degrés divers par différents facteurs, des facteurs qui vont être d'ordre biologique, d'ordre génétique, d'ordre psychologique, mais aussi d'ordre sociaux, bien entendu. À travers l'expérience de vie, les individus apprennent la douleur. C'est-à-dire qu'on va vivre avec des moments de vie où on va appréhender un sentiment, une émotion, et donc une expérience de douleur. Et c'est ce phénomène qu'on vit va définir pour chacun d'entre nous ce qu'est la douleur. Normalement, la douleur, ça doit engendrer un phénomène d'adaptation. Mais parfois, ça a des effets effectivement très néfastes. Des effets négatifs sur le fonctionnement dans la vie de tous les jours, mais aussi sur le bien-être, qu'il soit social, familial, relationnel et psychologique, bien entendu. Et alors, un autre point que je souhaitais simplement aborder, c'est que si la douleur aiguë, celle qui arrive et qui n'était pas là, constitue un signal d'alarme qui doit justifier d'aller chercher la cause de cette douleur pour traiter la cause de cette douleur, la douleur chronique, elle, dans son caractère persistant ou dans son caractère récurrent, elle va se définir comme la présence de ces symptômes depuis au moins 3 mois. On estime que la fourchette qui va définir la chronicité, elle est entre 3 et 6 mois. C'est plus du tout une alarme. On a tendance à expliquer que la douleur chronique, en fait, elle sert à rien. Mais elle est là. Le système de la douleur commence à dysfonctionner complètement et en fait, on rentre en réalité dans ce qu'on appelle une douleur, entre guillemets, maladie. Une vraie maladie de la douleur. On n'est plus dans la douleur symptôme. L'objectif du coup de la prise en charge, ça va pas être réellement de résoudre la douleur et de la faire disparaître. Ça va être de réduire le handicap qui est corollaire aux symptômes et aux ressentis du symptôme. Et finalement, avec un objectif principal qui va être celui d'améliorer la qualité de vie des patients.
Quels sont les dispositifs médicaux et non médicaux dont vous disposez dans la prise en charge des douleurs chroniques? Et tu y as déjà un peu répondu, mais y a-t-il des enjeux spécifiques à cette prise en charge par rapport au traitement de la douleur en général?
Ce qui est très marquant en premier lieu, et je laisserai ensuite mes collègues étayer tout ça, c'est que déjà dans la douleur chronique, on peut noter la faible efficacité des antalgiques traditionnels. D'un point de vue médicamenteux, les traitements vont apporter une partie du soulagement, mais ils ne peuvent pas être que ça. On ne peut pas réduire la prise en charge de la douleur chronique à l'utilisation de médicaments. Ça ne suffit pas. Et surtout, c'est finalement très peu satisfaisant à long terme. Surtout quand on connaît les risques, notamment sur l'usage des opioïdes, hein, qui vont parfois générer des situations de dépendance physique, de dépendance aussi psychologique, et puis parfois des mésusages jusqu'à de vraies addictions. Et donc, il faut décliner d'autres approches. Et les approches non médicamenteuses sont celles que nous cherchons à encourager le plus sur des structures comme la nôtre.
Voilà, par rapport aux dispositifs non médicaux, nous, en tant qu'infirmières, avec ma collègue Mathilde, on est plutôt dans de l'éducation du patient à l'utilisation de certaines thérapeutiques. Et on est aussi là pour faire accepter, si vous voulez, le fait d'utiliser des moyens non médicamenteux. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les médecins donc, vont prescrire des médicaments. Et nous, on va être là souvent dans un deuxième temps pour faire aussi accepter aux patients que le médicament ne sera pas la seule réponse à apporter au soulagement de la douleur. Donc nous, on les voit dans des consultations infirmières où c'est peut-être plus facile et plus... où le patient peut-être se sent plus libre de nous parler parce que face à ce médecin, il y a une certaine... envie de bien faire de la part du patient en disant que ben, le patient, oui, il va bien prendre les médicaments prescrits par le médecin. Et nous, on essaye de remettre le patient un peu dans le contexte. On lui dit, mais nous, ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment pour vous aider. Et si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Mais nous, on est là pour vous donner des pistes. Et vraiment, c'est pas quelque chose qu'on va vous prescrire à faire de façon systématique. Si un jour, vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Et c'est pas grave. Donc, on va plutôt mettre en lien la motivation du patient. Et on va essayer de recentrer le patient au cœur de sa prise en charge. Et que ça va être lui l'acteur primordial dans sa prise en charge. Et c'est en ça qu'il faut lui faire un petit peu le deuil de prendre les médicaments parce qu'on a souvent tendance à dire ben voilà, j'ai mal quelque part, j'ai quelque chose, docteur, prescrivez-moi quelque chose. Sauf que dans la douleur chronique, il faut vraiment remettre le patient au cœur de sa prise en charge et c'est lui l'acteur principal de sa prise en charge. Et si tant qu'il ne comprend pas ça, il faut vraiment lui faire accepter pour qu'il puisse évoluer. Évoluer vers ça. Donc nous, on a différentes techniques sur le CHU. Je ne sais pas si tu veux les présenter, Mathilde.
Pour qu'il devienne acteur de sa santé, on lui fait l'éducation sur le TENS, c'est la stimulation transcutanée. Donc il vient à la structure et on lui accorde minimum une heure pour lui présenter l'appareil, les différents programmes, les possibilités de positionnement des électrodes. Et on le revoit à 3 mois et à 6 mois afin de voir avec lui comment il appréhende la machine et faire vraiment des rendez-vous fixes 3 mois et 6 mois. Mais on reste toujours disponible par le biais du mail s'il y a une question pour pas rester avec une question en attendant le rendez-vous pour essayer d'optimiser au mieux l'utilisation de cet appareil. Nous proposons aussi de la magnétothérapie. Donc c'est un tapis avec des aimants qui permettent de générer un champ magnétique et qui a un effet sur la circulation cellulaire et pour diminuer l'inflammation au niveau cellulaire. Donc ils viennent, c'est des séances d'une demi-heure et on a un échange avant et un échange après. C'est des séances qui se font après une séance tous les mois sur une durée de 5 séances. On présente aussi le tapis d'acupression qui est aussi un tapis fleur qui s'apparente au tapis des fakirs. Et donc ça, on le présente. On ne peut pas mettre à disposition pour faire des séances, mais on le présente parce qu'on le trouve dans n'importe quel magasin du commerce. Ça se trouve facilement à des prix qui restent abordables. Donc on explique l'action. Donc l'action, ça va être permettre la sécrétion d'endorphines, donc l'hormone qui est naturel, donc il n'y a pas d'effet d'accoutumance comme un médicament qu'on peut retrouver aussi avec le TENS. On peut aussi permettre au corps la sécrétion d'endorphines. Après, on va leur présenter d'autres techniques, mais que nous, proposons pas, mais qui va être tout ce qui va être relaxation, qui c'est pas partie de notre champ de compétences, mais tout ce qui va être relaxation, hypnose. Et donc là, on va aiguiller vers d'autres spécialistes.
Pour ce qui est de la prise en charge non médicale avec les psychologues, une des premières choses, c'est l'écoute, évidemment, l'écoute attentive et empathique. Mais je pense que tous les professionnels du service l'utilisent aussi. Ça permet aux patients de se sentir reconnus dans son expérience, justement. Et c'est très important de pouvoir avoir une parole pour lui, enfin d'avoir un espace de parole. Et après, du coup, l'idée pour nous, les psychologues, ça va être aussi de la psychoéducation, au sens où on va permettre de créer un espace de parole où on va expliquer aux patients le lien entre psyché et soma, c'est-à-dire vraiment entre l'esprit, le psychisme, le psychologique et le corporel. Et à quel point l'un influence l'autre et vice-versa. Et donc à quel point c'est important dans le cadre des douleurs chroniques de prendre en charge l'aspect psychologique. Et dans ce cadre-là, une des premières choses que j'explique aux patients, c'est que la douleur, quand elle est chronique, elle peut représenter pour eux une expérience qu'on pourrait dire traumatique. Et donc là aussi, ça permet de vraiment faire comprendre aux patients, déjà d'une part qu'ils se sentent reconnus, et puis de lui faire comprendre l'impact que ça peut avoir sur son corps à long terme. Enfin. Et donc, ça me permet aussi d'expliquer que parfois le stress contribue vraiment à majorer et à chroniciser la douleur. Et donc, pour faire face à ça, j'explique les différents protocoles qui existent. Donc, effectivement, il y a la relaxation, comme disait ma collègue tout à l'heure. Donc, nous, au centre douleur, on a un protocole sur 8 séances où on apprend au patient petit à petit à se connecter à son corps selon un protocole connu. Ça lui permet d'apprendre à se relâcher, mais aussi à se connecter à lui-même d'une autre manière. Ça va être aussi des protocoles de pleine conscience, bon, là, que nous, on n'a pas forcément développé, mais que j'introduis aussi en séance par certains éléments. Voilà, et tout ça, ça contribue vraiment à l'apprentissage du lien psyché-soma, qui est extrêmement important. Et après, dans la prise en charge non médicale, moi, j'ai vraiment une approche aussi psychotrauma, qu'on utilise pas mal quand même en centre douleur, on est nombreux à l'utiliser. Et l'idée, c'est vraiment d'expliquer aux patients que parfois, des expériences de vie antérieures, potentiellement traumatogènes, peuvent avoir eu un impact sur le système de stress dans le corps. Moi, j'essaie de l'expliquer un peu simplement, mais ce n'est pas toujours évident. Et peuvent avoir contribué justement à une dérégulation du système interne et aussi à une dérégulation du système de douleur, de la perception de la douleur. Et soit en contribuant à la majorer, soit en la chronicisant aussi. Voilà. Donc, parfois, il peut être opportun aussi de faire des thérapies sur les traumas anciens. Voilà.
Après, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que ce qui est important pour le patient qui arrive en structure douleur chronique, donc il rencontre de prime abord le médecin qui fait une première évaluation, et après, souvent, nous, donc on les voit en seconde position, et ce qui est très intéressant, c'est que le patient a eu déjà le temps de digérer sa première consultation médicale, et une fois qu'il arrive avec nous, il se sent reconnu en tant que tel. Et pour lui, en fait, le fait qu'il ait réussi à trouver une structure qui le comprenne, qui l'écoute et qui lui dise pas que la douleur est simplement dans sa tête ou que sa douleur n'existe pas parce qu'il n'y a pas de lésion physique ou de lésion tissulaire ou autre et que ça se passe pas qu'uniquement dans sa tête, en fait, il est très heureux, entre guillemets, de nous rencontrer et de trouver enfin des professionnels qui sont formés à cette écoute empathique. Et même si la douleur ne se voit pas, elle peut se ressentir effectivement. Et énormément de personnes nous font remonter qu'enfin, ils se sentent compris et écoutés. Et c'est ça qui leur a manqué dans leur prise en charge précédente. Et du coup, ils trouvent déjà le fait d'être pris en charge dans une structure douleur une certaine forme d'apaisement parce qu'ils retrouvent une certaine sécurité parce que ils savent qu'ici, on va les prendre au sérieux. Et ça, ça fait partie déjà... c'est quelque chose de non médicamenteux, mais ça fait déjà partie du processus, entre guillemets, pas de guérison, mais de prise de conscience de cette pathologie de douleur chronique.
Dans notre structure au CETD du CHU de Toulouse, nous proposons aussi de l'éducation en activité physique adaptée. Parce qu'il y a beaucoup de pathologies où la prise en charge de la douleur passe bien entendu par le corps. Et on sait que l'activité physique adaptée permet de faire fabriquer naturellement par l'organisme tout plein de substances qui sont extrêmement bénéfiques en termes de bien-être, que ce soit des endorphines, mais aussi d'activer les systèmes de la sérotonine. Et du coup, l'activité physique adaptée, c'est un des champs de nos propositions. Et puis pour terminer, je me permets de rajouter aussi une parenthèse sur le niveau d'expertise 3, donc les structures type CETD qu'on abordait tout à l'heure, puisque dans notre structure, nous proposons aussi des approches qui ne sont pas des médicaments, mais qui sont d'un très haut niveau d'expertise. C'est les techniques de neuromodulation invasive, donc l'implantation de stimulateurs médullaires pour notamment des douleurs neuropathiques réfractaires, périphériques. Et puis, dernièrement, nous avons un protocole de RTMS, c'est la résonance magnétique transcrânienne. C'est une technique qui utilise un champ magnétique pulsé localisé sur certaines aires du cortex cérébral et qui permet aussi de faire comme un espèce de restart du système douleur au niveau de la maquette de notre corps telle qu'elle est projetée dans notre cerveau. Et ça permet de diminuer, ça a été prouvé comme étant efficace, dans la prise en charge des douleurs neuropathiques. Donc ça, c'est aussi une des techniques qui est proposée dans le cadre de notre expertise.
La caractéristique principale des douleurs chroniques, c'est qu'elles durent dans le temps. Donc il ne s'agit plus d'un événement ponctuel, on l'a dit, mais donc d'une trame de fond dans l'existence de la personne qui en souffre. On pourrait dire donc que cela modifie d'une certaine façon la vie quotidienne du patient, mais aussi de son entourage, vous l'avez dit. Et vous avez déjà un peu répondu, mais peut-être vous pourriez développer sur la façon dont vous prenez en compte cette dimension invasive de l'expérience de la douleur chronique dans le parcours de soins des patients.
Nous, en tant qu'infirmières, lors de nos séances d'éducation, ce qu'on va mettre en place avec le patient, c'est des objectifs. Alors, l'objectif, déjà, on va déjà demander au patient quels sont les objectifs qu'il a par rapport à la consultation et à ses attentes, en fait. Et en fonction de ce qu'il va nous proposer, souvent, c'est de ne plus souffrir, de ne plus avoir mal. Donc, notre rôle à nous, ça va être de resituer, si vous voulez, la douleur en disant que cette pathologie chronique, de douleur chronique, il va l'avoir sur une longue période. Et il va vraiment falloir revoir pour la plupart du temps les objectifs à la baisse, c'est-à-dire que il vaut mieux commencer petit, c'est ce qu'on dit toujours. Nous on peut rencontrer des patients qui ont des douleurs neuropathiques à type de sciatique et on leur dit que c'est pas demain qu'ils vont pouvoir courir le marathon. Donc déjà, on va voir par rapport à leur périmètre de marche, on va établir un objectif comme aller chercher le pain à la boulangerie à pied, faire l'aller-retour sans faire de pause, etc. Donc on va vraiment s'adapter aux besoins et aux demandes du patient pour faire des objectifs qui sont atteignables, de façon à ne pas le décourager, sachant qu'à chaque consultation, ces objectifs, on va les revoir. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de les revoir à la hausse. Maintenant que vous avez réussi à aller chercher le pain à la boulangerie, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en place pour... Après, ça va vraiment dépendre des patients et puis on essaye vraiment de s'adapter à leur vie. Ça va peut-être être la reprise d'une activité professionnelle ou la reprise d'une activité sportive. Voilà, donc on essaye d'individualiser la prise en charge et ça va être ces objectifs petit à petit qu'on va faire évoluer et le cheminement aussi de l'acceptation de la douleur chronique va se faire au travers de la mise en place de ces objectifs-là.
C'est très important ce que tu dis, Laura, parce que effectivement, il y a certains patients qui arrivent vers nous et qui nous relatent finalement tout le parcours d'échecs qu'ils ont traversé avant d'arriver. Et bien souvent, c'est effectivement parce qu'on n'a pas défini au préalable de proposer une prise en charge, un objectif personnalisé, adapté, atteignable, qui permet effectivement de valoriser finalement la technique proposée, puisque si on se dit, bah, effectivement, je vais utiliser par exemple un TENS, donc l'électrostimulation transcutanée, par exemple, pour me permettre de marcher un petit peu plus, pour promener mon chien, par exemple. Eh bien, si on se fixe l'objectif d'aller promener son chien de temps en temps, et que le TENS permet de le faire, eh bien, la technique est valorisée, et ça fonctionne, ça aide. Mais si, par contre, l'objectif que le patient s'est imaginé et construit, c'est « je vais utiliser le TENS tous les jours, trois fois par jour, comme on me l'a dit, et la douleur va disparaître », effectivement, on ne va pas y arriver. Et le vécu d'échec va aussi participer à l'entretien et à la chronicisation des symptômes.
Et on précise bien que le TENS n'est pas une baguette magique. On n'en a pas. Si on en avait, on l'utiliserait avec plaisir. Mais ça va être une... Toutes ces techniques non médicamenteuses vont leur permettre d'avoir un éventail de possibilités et à eux de savoir quoi se raccrocher, à quel moment de leur douleur, de l'intensité de la douleur. On leur dit, ben, le TENS plus une bouillotte, pas de problème, plus autre chose ou une séance de relaxation. Et ça va être toutes ces petites techniques qu'on leur apporte qui va leur permettre d'arriver à vivre une vie... Alors, le comme avant, il va falloir essayer de travailler dessus parce que le comme avant, on ne peut pas revenir comme avant. Mais avancer avec votre douleur et tout ce que vous avez à disposition pour vous aider à vivre une vie le plus normale, on va dire, entre guillemets. Et je rebondis sur l'entourage. Alors, on peut recevoir le patient douloureux avec soit son conjoint ou quelqu'un de proche dans nos consultations. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le fait qu'il soit avec la personne qui vit avec eux ou qui les aide et qu'on pose les choses et qu'on ait ce discours que ça ne se voit pas, mais qu'on entend qu'il y a réellement une souffrance, il nous remercie dans le sens où du coup, la personne qui accompagne, prend plus conscience qu'il y a réellement quelque chose et que c'est pas du cinéma. Et le fait qu'on soit là et qu'on mette en place des choses et qu'on les écoute et qu'on les soutienne, ça renforce la personne qui l'accompagne, je sais pas trop comment le tourner, elle se sent...
En fait, c'est le patient se sent reconnu en tant que, pas malade, mais ayant une pathologie douloureuse. Il y a une certaine légitimité de sa douleur qui peut... dans la plupart des cas, avoir un conjoint qui dénigre ou des choses comme ça et qui maintiennent justement la personne douloureuse chronique dans cette spirale qu'est la douleur avec, comme on disait tout à l'heure, tous les différents aspects, que ce soit psychologique, au niveau social, au niveau l'entourage, etc. Donc ça, c'est vraiment, comme on disait, il se sent... écouté, entendu et légitimé dans sa représentation de personne ayant quand même s'il n'y a pas de... on revient toujours à cette lésion tissuaire, même si on ne voit rien aux examens, il se sent reconnu en tant que patient et que malade et ça c'est important.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle Antoine Hélin, Laura Bonneau, Mathilde Barré et Cyril Planquois. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. C'était Elisa Calvé pour Penser la santé.